BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission en direct BFM Crypto, le club, tous les jours à 15h sur BFM Business. On va parler beaucoup de Bitcoin aujourd'hui, comment il évolue, ce que font les investisseurs, mais on va aussi parler de marché prédictif, de Clarity Act, de MiCA, de la réglementation, de l'évolution du secteur crypto en général. On a beaucoup de sujets. Mes invités, Hubert de Vauplan, partner chez Morgan Lewis. Bonjour Hubert. Bonjour. Ravi de vous avoir sur le plateau. À vos côtés, Antoine Andréani, analyste en chef chez XTB France. Bonjour, bonjour Antoine. Et Pauline Armandet, journaliste BFM Business. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Vous nous écrivez, vous savez, vous nous posez toutes les questions qui vous passent par la tête sur le secteur crypto. On y répond le jeudi entre 15h et 15h30. BFM Crypto, le club. C'est parti. L'adresse, je vais vous la donner tout de suite. L'adresse, donc, crypto@bfmbusiness.fr, c'est là que vous nous envoyez nos questions. On y répond toutes les semaines. Antoine, je commence par vous. Vous revenez sur une sorte d'anniversaire, on y est presque. Le 22 mai 2010, Laszlo Anyetz, on disait Anyetz, payait 2 pizzas avec 10 000 bitcoins, ça fait 16 ans. Et en quoi ce jour est-il symbolique encore aujourd'hui ?
Alors c'est vendredi, hein, le ouais. Bitcoin Pizza Act, c'est, Pizza Day, pardon. c'est tout proche. Alors c'était la première transaction pour acheter un bien réel en bitcoin. À l'époque, on voulait montrer la voie. On voulait acheter des jeux vidéo, des cafés, des hamburgers dans les fast-food et 2 pizzas achetées par ce monsieur Laszlo, qui était programmeur aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins vaudraient 780 millions de dollars. Je ne sais pas si on se rend compte, c'est phénoménal.
On a du mal à se comprendre.
Et s'il les avait conservés en octobre, il aurait été milliardaire, ce monsieur.
Ouais.
Alors on s'en moque beaucoup, mais on est un petit peu cruel parce qu'on aurait bien aimé être à cette époque pour pouvoir acheter du bitcoin. Mais grosso modo, voilà, c'est une journée qui est un petit peu célébrée pour nous rappeler de l'envolée spectaculaire du bitcoin. Et ça nous rappelle aussi d'autres histoires également. Alors, on pense à James Howells, l'informaticien gallois qui, en 2013, jette son bitcoin, son disque dur, avec ses 8000 bitcoins à l'intérieur, représentant aujourd'hui 624 millions de dollars, qui se met en partenariat avec un hedge fund pour aller le retrouver, ce disque dur, dans la déchetterie. Puis au final, il est bloqué, il a des barrières légales. Et là, apparemment, les rumeurs diraient qu'il veut carrément racheter la déchetterie. Donc, il y a plusieurs... C'est vraiment comme ça.
Je comprends le regret.
C'est un peu la journée gossip, le Bitcoin Pizza Act. Et j'en ai juste un dernier exemple.
Oui.
C'est le cas de l'étudiant heureux dernièrement aux États-Unis qui perdait son mot de passe et son accès à 5 bitcoins, qui valent aujourd'hui 400 000 dollars environ, parce qu'il était perché sous cannabis. Il avait oublié son mot de passe parce qu'il n'était pas très clair. Et il retrouve par hasard dans ses dossiers d'étudiant sa phrase mémonique. Et avec l'IA de Claude, eh bien, il va gratter, il va aller chercher dans ses archives, disques durs, email, messages, un fichier DAT qui est clé pour recomposer son mot de passe. Mot de passe particulier, hein, c'était LOL420F de police, bref. Et donc, il a pu récupérer ces 5 bitcoins d'une valeur de 400 000 dollars.
C'est très intéressant parce qu'on voit à quel point le secteur a changé, à quel point il n'appartient plus aux mêmes personnes, à quel point c'était effectivement une histoire de jeunes geeks à l'époque qui faisaient ça un peu n'importe comment. Ça montre aussi d'ailleurs à quel point c'est du long terme parce qu'il aurait fallu aller jusqu'au bout de cette idée et garder précieusement ces bitcoins. En quoi, Antoine, les cycles historiques du bitcoin pourraient être en train d'évoluer? Évidemment, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup ces derniers mois particulièrement.
Alors pour moi, il n'évolue pas.
C'est
parce
vrai
que Bitcoin a vraiment une personnalité très très propre sur le plan mathématique, technique, géométrique. Et on en parlait la dernière fois, dans ses marchés haussiers, il monte pendant 1000 jours. Ensuite, il corrige fortement de 85% en moyenne pendant un an minimum. Et ces cycles se répètent depuis qu'il existe et c'est fascinant à voir sur nos graphiques. Et actuellement, voilà, dans le marché haussier, il a monté à peu près de 1000 jours. Il est monté de 1000 jours. Il a baissé de 52% jusqu'alors. Et ça fait que depuis 224 jours qu'il baisse. Donc, ça laisse penser qu'il y a de la marge encore un petit peu. Mm-hmm. Et moi, vous le savez, ma passion depuis 10, 11, 12 ans, c'est de suivre les traders institutionnels, les algo-traders, qui représentent 90% minimum des transactions dans les contrats à terme. Et les grands, grands supports, les algo-investisseurs, ils attendent 44 000 dollars, voire 35 000 dollars au plus bas. Et donc, ces cycles, ils se répètent. Tant que ça marche, on continue à les utiliser. Et c'est absolument fascinant à voir. Une autre statistique super intéressante, je crois que j'en avais parlé la dernière fois, c'était il y a un trimestre à peu près. Chaque amplitude de marché baissier dans Bitcoin représente 78,6% le précédent. C'est chirurgical. Et c'est vraiment dans la personnalité de Bitcoin de se comporter ainsi.
Je me souviens des 44 000 dollars. Vous nous en aviez parlé la dernière fois, effectivement. Est-ce qu'il comporte encore des risques aujourd'hui?
C'est-à-dire?
Est-ce qu'il y a des risques inhérents à investir dans
Bien
Bitcoin?
Bien sûr, comme tout instrument. Mais Bitcoin, lui, a une personnalité qui lui est propre. Il fonctionne comme les indices américains, sous forme d'escalier assez énorme.
On les
et,
voit.
Et donc, le prochain support se situerait à 44 000 pour après cibler les 200 000 dollars. C'est ainsi que les algo-traders vont vouloir trader.
Si vous dites que les cycles sont toujours à peu près les mêmes, est-ce que malgré tout, on entend souvent dans cette émission que le Bitcoin est entré dans sa phase de maturité. Vous en pensez quoi ?
Les marchés haussiers sont moins spectaculaires, de moins en moins forts, et les marchés baissiers également. C'est là qu'on voit un petit peu plus de maturité, un petit peu moins de volatilité, de comportement un petit peu infantile de la part de cet instrument qui est malgré tout très jeune.
On va voir où ça peut nous mener. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Quand je pose cette question ici, maintenant, on me dit non, je ne fais pas de prédiction. Mais Pauline Armandet, le Bitcoin atteindra le million de dollars d'ici 5 ans. Ses partisans sont de plus en plus convaincus de cela, même si certains l'anticipaient beaucoup plus tôt.
Oui, alors c'est effectivement un discours qui devient de plus en plus récurrent, notamment du côté des gestionnaires actifs américains. Ils disent, voilà, le Bitcoin atteindra 1 million de dollars d'ici 5 ans. La plupart utilisent quand même souvent ces mêmes arguments, le fait que le Bitcoin est en fait de plus en plus... Enfin, l'offre de Bitcoin disponible est de plus en plus rare, notamment grâce à des processus, notamment un qui s'appelle le halving. Le prochain sera en 2028, donc assez proche donc de 2030, la date qui est donnée. Effectivement, depuis quelques mois, on voit aussi que le Bitcoin a tendance à être de plus en plus défini comme une valeur refuge, notamment dans le contexte de guerre. Donc, c'est vrai que tous ces éléments associés permettent de donner espoir dans le fait que le Bitcoin atteindra ce million de dollars. Et donc, on entend de plus en plus d'experts en parler. Et aussi, l'un des fils de Donald Trump, Eric Trump, à la tête d'une société donc Bitcoin America, donc de minage de Bitcoin, qui lui aussi a cet espoir-là.
Il y en a d'autres avant qui avaient évoqué ce prix déjà depuis longtemps.
Oui, alors le tout premier, c'est un des pionniers du Bitcoin, s'appelle Wenz Cazares et qui avait déclaré dès 2014 que le Bitcoin atteindra 1 million de dollars, mais sans forcément donner de date. Il disait, c'est un processus de long terme. Et donc, il avait donné ce chiffre. Dès 2022, on a Cathie Wood, donc l'une des figures majeures de la tech et de la finance aux États-Unis, qui a donc fixé ce prix d'un Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2030. Et elle a maintenu en fait son objectif en 2024 et en 2025. En revanche, il y en a d'autres qui avaient déjà donné ce prix-là. Un en 2017, ils pensaient que le Bitcoin allait atteindre 1 million de dollars en 2020. Évidemment, ça n'a pas été le cas.
Ouais.
Et on en avait un aussi qui était responsable chez Coinbase et qui, dès 2023, avait dit que le Bitcoin atteindra 1 million de dollars d'ici 90 jours et ça ne s'est pas fait. Donc, il y a aussi des prédictions qui tombent à l'eau. Et il faut quand même vraiment se méfier de tous ces aspects prédictifs sur le prix de la reine des cryptos.
Ça va dans le sens de ce que vous disiez avant l'émission, Hubert de Vauplane. Vous êtes assez sceptique sur ce chiffre particulièrement, sur le fait qu'on on le redonne, là.
Oui, ça fait un peu un mantra, en quelque sorte. C'est un chiffre magique.
C'est bien, ça fait rêver, mais il faut surtout ne pas le prendre comme une prédiction.
Rien n'a changé depuis qu'on a fait les premières annonces?
Non, et plutôt au contraire. Alors, j'aime bien prendre le contre-pied par nature, parce que c'est aussi un peu dans ma profession, on défend tout et n'importe quoi, si je puis dire. Mais j'aime bien prendre le contre-pied de cette idée, parce que d'abord, c'est plutôt mon impression, c'est-à-dire que Bitcoin comme valeur refuge, non. Il suffit de le voir depuis les différents conflits à droite à gauche. C'était pas le cas pendant la guerre de l'Ukraine. C'était pas le cas pendant la guerre
avec l'Iran. Il est remonté pendant le conflit en Iran. Hein.
Pardon ?
Il est remonté.
Oui, mais enfin bon, c'est pas l'or. Hein. Si on compare entre valeur refuge, entre l'or et le Bitcoin, je pense que la bataille est vite gagnée. Sur l'évolution de son cours, naturellement haussier, parce que c'est un nombre d'unités limité avec une raréfaction programmée. Ça, c'est la grande idée, mais Mais le graphique est là, hein, ça monte, ça baisse, mais alors on me dira justement, ça monte globalement. Mais enfin, c'est pas démontré statistiquement en tous les cas, et tout dépend de l'échelle de temps qu'on prend. Et puis enfin, le troisième argument pour lequel je suis sceptique sur cet horizon, quel que soit l'horizon, mais même 5 ans, qui est un... qui est moyen terme, c'est que la meilleure corrélation qu'on ait trouvée aujourd'hui pour le Bitcoin, c'est la masse monétaire M2, on en avait déjà parlé ici aussi, c'est l'actif le plus corrélé à plus de 80% sur la masse monétaire M2, contrairement à l'or, aux actions, aux obligations ou à d'autres marchandises. Mais surtout, tout dépend si on parle de corrélation court, moyen ou long terme. Mais dans l'ensemble, pour une corrélation de moyen terme, en fonction de l'évolution de la masse monétaire, on aura une contraction ou au contraire une diminution ou une augmentation du cours du Bitcoin. L'idée sous-jacente étant que les investisseurs institutionnels ou même les particuliers, dans une politique monétaire où il y a beaucoup d'argent, ils mettent leur surplus, si je puis dire, dans un actif à risque, oui, comme le Bitcoin, et non pas dans des actifs moins risqués. Et que dès qu'on a contraction, au contraire de la masse monétaire, je retire le surplus pour le mettre dans des actifs moins risqués. Et vu ma formation de banquier précédente, si je puis dire, je suis plus sensible à cet argument que de jeter un chiffre magique.
Antoine, votre avis sur ce million d'ici 5 ans ?
Possible, bien sûr que c'est possible.
Vous n'avez pas des chiffres plus précis, là, parce que vous savez nous dire 44 000.
Ça marche par escalier. Ça. C'est-à-dire qu'on descend à un support et après on cible une valeur spécifique. Mmh. Donc ce serait le parcours, hein, idéalement 44 200, on retrace à nouveau peut-être 100 et ensuite on pourrait partir à la verticale.
Mais encore au moins deux cycles et demi là-dedans. Hein, donc
Oui, ça prendra peut-être du temps. Par contre, il ne faut surtout pas descendre en dessous de 35 000. Si on descend en dessous de 35 000, je vous dis, attention, le million, peut-être qu'on lui dit au revoir. Mais on y est très, très loin encore. Et je suis d'accord avec ce que vous disiez. Bitcoin, c'est un actif risqué. Ce n'est pas un actif refuge. Il est corrélé, par exemple, aux semi-conducteurs, par exemple. Et s'il a un petit peu tenu, il a un petit peu grappillé à la hausse dernièrement, c'est peut-être grâce aux semi-conducteurs. Le grand risque actuellement, même aujourd'hui, ce sont les taux obligataires américains qui montent, qui entraînent tous les taux obligataires à la hausse, sous-entendant que le risque inflationniste augmente, à cause notamment de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ça pourrait faire baisser la bourse, et Bitcoin également, qui est corrélé au S&P 500 par exemple.
Donc quoi qu'il arrive, faites attention si vous possédez du Bitcoin, ne faites pas les mêmes erreurs dont on a parlé tout à l'heure en début d'émission, au mieux gardez-les et on verra bien, il faut de toute façon, c'est du long terme, voir ça sur peut-être pas 5 ans même, peut-être plusieurs décennies, on le dit souvent sur ce plateau. Dans ce contexte, Pauline, de nombreux investisseurs crypto cherchent à récupérer leur Bitcoin stocké dans des vieux portefeuilles.
Ah oui, c'est un sujet qui passionne la communauté crypto et assez régulièrement, effectivement, on observe des transactions de gros montants d'utilisateurs qui vont réactiver leur portefeuille. Le dernier exemple en date, c'était mi-mai. Un utilisateur a transféré 500 Bitcoin et donc d'un portefeuille qui avait 12 ans. Du coup, la valeur de son portefeuille a été multiplié par 89. Il est passé de 450 000 dollars à plus de 40 millions de dollars. Ça fait effectivement un gros pactole. Et il y a plusieurs raisons, en fait.
Oui, c'est quoi les raisons de ces transferts ?
Ah, ces transferts, déjà, l'idée, c'est quand même de pouvoir sécuriser leurs fonds, parce que on ne sait jamais sur des vieux portefeuilles. Donc là, peut-être que, comme il s'agit de gros montants, l'idée, c'est de pouvoir transférer cette valeur sur des portefeuilles dits multi-signatures. Sinon, ils peuvent aussi décider de vendre leur Bitcoin ou d'utiliser leur Bitcoin dans le cadre de différentes opérations dans les marchés crypto ou la finance décentralisée.
Si certains utilisateurs réussissent à les récupérer, c'est pas le cas de tout le monde.
Non, effectivement. Et là, on voit qu'il y a de nombreux témoignages sur des forums comme Reddit ou Bitcoin Talk de personnes en fait qui cherchent à récupérer leurs fonds qui sont sur des portefeuilles crypto personnels ou les portefeuilles de proches qui ont disparu. Et là, ils se heurtent souvent à la même difficulté. Ils ont perdu la phrase de récupération. On en parlait tout à l'heure, mais effectivement, c'est sans l'accès à cette phrase, donc cette seed phrase, on perd l'accès à ces crypto-monnaies. Donc là, ça peut être pour toujours. Et en fait, les experts considèrent qu'il y a entre 4 et 5 millions de bitcoins aujourd'hui qui ont complètement disparu de la circulation. Et donc ça fait beaucoup, c'est quand même 20% de l'offre de Bitcoin aujourd'hui disponible, 21 millions de Bitcoin, je le rappelle. Donc ça, c'est des Bitcoins qui sont perdus dans la nature et voilà. Il y a des perdants et des gagnants dans cette histoire.
C'est bien dommage. Antoine, une réaction?
Ah, ça fait mal hein, de
perdre. Ça fait mal. Hein.
J'espère que Satoshi les a perdus, comme ça il y aura moins de volatilité. Mais non, peut-être qu'il faut céder un petit peu de Claude hein, quand on peut. Mais...
Hubert?
Non, pas d'opinion là-dessus. Je pense que la nature est bien faite, si je puis dire. Vous perdez votre clé. Vous perdez votre clé, voilà. Et alors, comment dire, certains pourraient dire, ben voilà, c'est encore une raréfaction supplémentaire, mais justement, elle n'a pas plus d'effet. Mmh. Donc ça abonde, j'allais dire, mon scepticisme.
Peut-être qu'à l'avenir, ce sera un peu moins le cas avec les nouveaux produits autour des crypto-monnaies qui sortent, avec le fait que ce soit d'autres acteurs qui les distribuent. Enfin, c'est peut-être des cas qu'on va moins voir, effectivement. C'est peut-être la fin d'une ère, tout ça. Hubert de Vauplane, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Les marchés prédictifs, vous vouliez revenir là-dessus? Aujourd'hui, de quoi on parle déjà concrètement?
Alors, c'est pas le même mot qu'on disait tout à l'heure, mais ça ressemble, hein, c'est prediction market en bon français. Et donc, ce sont des marchés qui sont apparus il y a déjà une dizaine d'années, mais qui ont vraiment explosé au moment de la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle américaine, où on a vu apparaître des paris. Prends le mot comme ça, pas au sens juridique, des paris sur qui sera le gagnant. Et donc, un marché prédictif, c'est un marché dans lequel vous pariez sur tout un tas de choses, beaucoup sur du sport, et sur le sport est très important, comme vous savez, aux États-Unis, donc c'est le résultat de tel ou tel match. Vous pariez aussi sur des élections politiques. On a parlé, voilà, ça peut être l'élection présidentielle, mais pas que.
Et sur la chute de Maduro.
Alors, voilà, on peut parler. Et là, dernièrement, à propos... justement la chute de Maduro ou autre, il y a un sergent d'armée américaine qui s'est fait qui est au pénal devant le juge criminel américain pour avoir empoché, selon le juge, $400,000 de manière illicite, c'est-à-dire en utilisant une information privilégiée de par sa position sur la capture de Maduro. Donc, ce sont des marchés qui fonctionnent, ce sont des marchés un peu, financièrement, ça ressemble plus à des options binaires qu'autre chose. Et c'est très simple, c'est pensez-vous que Maduro va être capturé? Oui, non. Et vous votez oui, vous votez non. Mm-hmm. Et selon le pourcentage, et ben vous encaissez la somme si le oui remporte 0,74 sur 1, donc 74%, et que c'est bien et que Maduro est bien arrêté, vous empochez cette différence. Comment on... Qui va dire qui est le gagnant, en quelque sorte? Et c'est là où interviennent les oracles. Donc c'est ça qui est intéressant, parce que le marché prédictif, au départ, avait des liens, mais pas tant que ça, avec le marché des cryptos.
Alors, c'est payé en crypto, déjà.
Alors, justement, ça ne l'était pas forcément au début, mais maintenant, c'est systématiquement payé en stablecoin, et c'est là où interviennent les oracles pour dire, bon, ben voilà... finalement, Zelensky, il avait une veste, il n'avait pas de veste. C'est un autre cas hein, dans lequel il y a eu beaucoup de polémiques parce que l'oracle a décidé que, contrairement aux photos, président Zelensky n'avait pas de veste alors qu'il avait une veste. Et pourquoi? Parce que le système de vote, de gouvernance, on retombe dans les questions de consensus un peu, là, montrait que finalement, il y avait des personnes qui avaient plus intérêt à une réponse plutôt qu'à une autre. Donc, c'est des marchés. Il y a beaucoup de manipulations, il y a beaucoup d'informations privilégiées. On l'a vu aussi pour le prix Nobel de la paix, où l'information a été manifestement sortie avant l'heure et quelqu'un en a profité. Il n'a gagné que $50,000, mais enfin, peu importe le montant. Donc, ce sont des marchés dans lesquels il y a beaucoup de critiques, y compris aux États-Unis. En Europe et dans la plupart des pays européens, c'est interdit, parce que juridiquement qualifié comme des jeux.
C'est du pari.
Et des paris. Mm-hmm. Et donc, c'est cette qualification qui les exclut de leur vente et les principaux sites américains sont interdits en France et dans la plupart des pays européens. Il n'y a pas de texte européen, c'est que du droit national à chaque fois. Hein. Donc, vous pouvez dire, je vais passer par une plateforme à Gibraltar ou ailleurs, peut-être, mais ça reste interdit, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe aux États-Unis avec un changement qui est de considérer que les marchés prédictifs sont une nouvelle forme, finalement, de sondage grandeur nature, en quelque sorte, mais aussi d'avoir une prédiction sur les marchés et leur évolution dans le futur, peut-être sur le million de dollars. Et on en parlait tout à l'heure, en fait, ce sont des marchés qui sont toujours des événements à court terme. Là, faire un marché sur le Bitcoin à $1 million en 2030, je pense que ça serait pas pour demain. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une bataille législative, là encore, au Congrès, pour savoir qui va réglementer ça et sous quelle forme. En clair, c'est la CFTC qui est en train de gagner, donc le régulateur des produits dérivés et des marchandises, au détriment d'une part de la SEC et d'autre part des jeux. Pourquoi et comment? Parce que finalement, il y a une sorte de consensus pour considérer que, et je vous fais court, c'est un peu compliqué, qu'un marché prédictif, ça prend la forme d'un swap. C'est un peu compliqué, mais donc c'est un swap. Et donc, puisque c'est un swap, ça rentre dans la réglementation de la CFTC. Et dans cette réglementation, vous avez une exception qui dit que la CFTC peut interdire des marchés de swap dès lors qu'ils portent sur un certain nombre d'événements, et notamment les événements politiques et les sports, etc. Et donc, c'est à la main de la CFTC. Donc, il y a tout un débat, il y a beaucoup de discussions en ce moment au Congrès et même à la CFTC avec des lignes directrices qui sortent pour savoir, bon, qu'est-ce qu'on va autoriser? Qu'est-ce qu'on va interdire? Évidemment, on va interdire des marchés prédictifs qui concernent des activités illicites ou des actions illicites qui sont liées au blanchiment, à la mort ou autre chose du même genre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit aux États-Unis une nouvelle approche de ces marchés qui était là-bas dans un flou plus ou moins artistique, qui vont rentrer. Ça fait penser aux stablecoins, hein, qui vont rentrer dans un cadre réglementaire très clair. Et nous, en Europe, on fait quoi? Rien, parce que l'Europe n'a pas de pouvoir.
Non.
Mais qu'est-ce qu'on fait, du coup, en France, en Allemagne, même en Grande-Bretagne, si c'est plus l'Europe, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en reste à des marchés qui sont considérés comme des jeux, et Paris, donc interdits, et on ne se repose pas la question, mais au fait, est-ce qu'on ne peut peut-être pas les qualifier différemment, dès lors qu'ils ont une structuration qui ne soit pas celle d'une option binaire, mais par exemple, un instrument financier ou autre chose, etc. Eh bien non, on n'en est pas encore là, en tous les cas.
Vous m'avez piqué ma transition, parce que j'allais dire, effectivement, par rapport au stablecoin, là aussi, il y a une bataille, là aussi, il y a des discussions, là aussi, il y a du flou juridique, et le Clarity Act, on y revient, le projet de loi destiné à réglementer le marché, vient de passer l'étape du comité bancaire du Sénat. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui bloquait?
Alors, pour rappeler ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents, il y a le Genius Act l'année dernière sur uniquement les stablecoins.
Oui.
Dedans, le Genius Act avait une disposition que certains estimaient pas claire sur peut-on ou non rémunérer les porteurs de stablecoins. Et puis, le Genius Act ne concerne que les stablecoins. Donc, ce n'est pas MiCA, parce que MiCA, c'est l'ensemble de l'activité des cryptoactifs. Et donc, le Congrès américain s'est rendu compte qu'il fallait l'équivalent d'un MiCA. Et donc ça, c'est le Clarity Act. Et à l'intérieur du Clarity Act, vous avez différentes dispositions dont certaines reviennent sur le Genius, notamment sur la rémunération, je vais y venir dans quelques instants. Puis vous en avez d'autres, c'est une des raisons pour lesquelles ça bloquait, notamment parce que c'est un texte bipartisan, et comme tout accord bipartisan, il faut au minimum 60 voix au Sénat sur 100 pour qu'il soit adopté, donc il faut que des démocrates votent ce texte. Et beaucoup de démocrates, en tout cas, on n'avait pas trouvé le nombre de démocrates suffisant pour le voter, à cause de deux sujets. L'un qui est lié au président Trump et au conflit d'intérêts, pour lesquels les démocrates estimaient qu'il n'y avait pas assez de garde-fous. Je laisse de côté, c'est un sujet un peu polémique, voilà, mais qui est important.
Et les rendements.
Hein ?
Et les rendements.
Et l'autre, c'est les rendements. Et les rendements, c'est là où on a vu une bataille depuis 6-8 mois entre l'industrie des cryptos et l'industrie bancaire. Se livrer à coup d'arguments, de contre-arguments économiques, etc., qui est de dire, grosso modo, est-ce que le rendement des bitcoins peuvent être distribués aux porteurs, soit directement par l'émetteur, soit indirectement par la DeFi, le staking, ou par des produits divers, style des MMF, etc., des fonds monétaires, etc. Et là, vous avez eu l'administration Trump, c'est assez rare, qui a sorti un papier en avril 2026, qui est un rapport assez complet, écrit par des économistes, montrant le danger qu'il y aurait de laisser rémunérer les stablecoins librement, estimant que finalement la rémunération des stablecoins, c'est comme la rémunération des dépôts bancaires, et qu'il y avait donc une fuite potentielle des dépôts bancaires vers les stablecoins, argument qu'on a déjà entendu de la bouche de la BCE, donc qui l'eût cru que là-dessus, BCE et la Maison Blanche se retrouveraient quelque part,
hein,
c'est
ouais.
Assez intéressant. Et donc, le juge de paix, si je puis dire, dans cet acte politique qui se discute au Congrès, c'est ce rapport, ce document de l'administration Trump qui dit qu'il ne faut pas autoriser les rendements à tout bout de champ, si je peux prendre cette expression, sur les stablecoins. Alors, vous avez eu cette décision la semaine dernière, effectivement, du comité bancaire du Sénat, qui est arrivé à un compromis à 19 voix sur 10, ou je ne sais plus combien, enfin, bref, il y avait une assez large majorité, donc des démocrates, et qui dit, bon, ok, c'est pas possible. Et pour que rémunérer des stablecoins, il faut qu'il y, que ce soit une transaction de bonne foi, bona fide transaction. Alors là, le juriste que je suis, je me dis chouette, il va y avoir des tas de discussions et de contentieux. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous le fais court. En fait, c'est de dire, je ne peux pas mettre mon bitcoin et attendre de recevoir une rémunération. Il faut que mon stablecoin travaille, il soit utilisé. S'il est utilisé, vous pouvez y attacher une rémunération. S'il est uniquement placé dans un produit, en fait, vous ne pouvez pas le rémunérer directement ou indirectement. C'est ça la solution qui semble se dessiner. Et si c'est le cas, le Clarity Act, nonobstant la question sur les conflits d'intérêts et deux ou trois petites choses, devrait être adopté d'ici le mois de juillet.
Exactement, vous avez fait le tour. Le dernier sujet, je vous laisse le mot de la fin, Pauline Armandet, c'est une très bonne nouvelle, c'est CoinHouse qui a obtenu l'agrément européen MiCA, justement, auprès de l'AMF.
Oui, et du coup, CoinHouse devient le 16e acteur, donc, à obtenir cet agrément MiCA en France. Elle pourra, du coup, cette bourse crypto, continuer d'opérer en France et du coup en Europe grâce au principe de passeport européen. Je rappelle, voilà, que c'est une société qui a été fondée en 2014, notamment par Éric Larchevêque et Thomas France, qui permettait au départ d'acheter des bitcoins de manière physique à Paris. Et maintenant, c'est une plateforme en ligne et elle compte à ce jour 100 000 utilisateurs.
Oui, ça c'est bien, on l'attendait effectivement, CoinHouse. Il y a plein d'acteurs qui sont encore en cours, hein, mais c'est vrai que la deadline, c'est le 1er juillet. Ça va être très très serré pour certains acteurs et ça nous inquiète un peu pour la structure du marché, mais on y reviendra évidemment dans cette émission. On n'a pas eu assez de temps. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Pauline Armandet, journaliste BFM Business, Antoine Andréani, analyste en chef chez XTB France, Hubert de Vauplane, partner chez Morgan Lewis. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée sur BFM Business.
Merci. BFM Business, BFM Crypto, le club.